Alors, un bon matin à vous tous. Et un grand merci à Johan et toute son équipe pour tous ces beaux chants de louanges qui nous préparent justement, effectivement, pour justement la parole de Dieu. Alors, ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles et trouver le livre d'Agé. Agé, chapitre 2. Agé chapitre 2, et le texte pour ce matin, ce sont les versets 20 à 23. Et c'est un texte que j'ai intitulé « Notre Dieu règne encore ». Laissez-moi vous poser une question. Sommes-nous convaincus de cela, que notre Dieu règne encore? Vous savez, malheureusement, il y a plusieurs qui vivent non pas comme si Dieu règne encore, mais comme s'il avait démissionné. Je vais vous donner quelques statistiques. Ce sont les statistiques qui viennent des États-Unis, mais on peut aussi les appliquer à nous-mêmes ici au Canada. Et on nous dit que 70% des pasteurs luttent constamment contre la dépression. 80% des pasteurs et leurs épouses se sentent découragés dans l'œuvre de Dieu. Plusieurs dénominations tolèrent de plus en plus le péché. Et même encore pire, pas seulement parmi leurs membres, mais parmi aussi leurs leaders, et n'exercent plus la discipline. L'Évangile aujourd'hui a été altéré et dilué pour le rendre moins offensif. Alors, le message, ce n'est plus comment être sauvé du jugement d'un Dieu saint et juste qui est le péché, mais plutôt comment se servir de Dieu pour combler nos besoins et nos désirs. Et quand nous regardons dans le monde, autour de nous, le portrait est aussi sombre. Il y a toujours la menace d'une guerre nucléaire qui plane sur la planète à cause des nations rogues telles que l'Iran. La menace aussi du virus d'Ebola qui est en train de décimer des populations ouest-africaines. La menace du groupe islamique ISIS qui se livre plutôt à des atrocités barbares en Irak, en Syrie et qui sait où encore à l'avenir. La menace aussi des actes terroristes, pas au Timbuktu, mais chez nous, au Canada, au Québec. Et vous savez, si nous focalisons sur ces problématiques, combien il est facile d'être découragé, combien il est facile de demander si notre Dieu règne encore ou bien a-t-il démissionné. Et vous savez, ce matin dans notre texte, Zorobabel, le gouverneur de Juda, le 18 décembre, l'an 520 avant Jésus-Christ, il se trouvait exactement dans une situation semblable, une situation décourageante. Juste pour vous donner quelques grandes lignes, il est le petit-fils du roi Josaphat. C'est un roi qui a régné un peu avant que Jérusalem soit détruite par Nebuchadnezzar et le peuple amené en captivité en Assyrie et en Babylone. Et il y a un petit reste qui vont revenir, 50 000 personnes à peu près, après l'exil. Et même de retour en Israël, ils ne sont pas libres. Ils sont toujours sous la domination perse. Ils sont entourés par des voisins hostiles qui détestent les Juifs et qui cherchent des occasions pour leur faire du tort. Ils avaient recommencé justement la construction du temple, un temple qui était beaucoup plus petit que le temple magnifique que Salomon avait bâti. Et pour quelques-uns, c'était une situation décourageante. Et le peuple était religieux, en apparence, mais les cœurs n'étaient pas droits devant Dieu. Et les murailles de Jérusalem étaient toujours en ruine, et la ville était vulnérable aux attaques de l'ennemi. Alors voilà la situation décourageante dans laquelle Zorobabel se trouve, la situation dans laquelle il devrait exercer son rôle de gouverneur. Mais Dieu avait un message pour lui et aussi ce matin pour nous, pour tous ceux qui se trouvent dans une situation décourageante, que ce soit par ce qui se passe dans l'Église ou dans le monde, ou plus intimement dans la vie personnelle, et même si parfois il peut sembler que l'ennemi est en train de gagner, notre Dieu règne encore. Et parce que Dieu règne encore, notre Dieu souverain triomphera dans l'accomplissement de son plan éternel et ses serviteurs devraient être encouragés à lui faire confiance et à faire sa volonté. Et ça, c'est le message de Agée 2, 20 à 23 que nous allons lire maintenant. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agée, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, le gouverneur du Juda, et dit : J'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et le cavalier seront abattus l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Voilà ce matin notre texte, et ce que j'aimerais considérer avec vous, c'est trois vérités qui renforcent ce message, que notre Dieu souverain règne encore et triomphera malgré les situation apparente décourageante. Alors, premièrement, Dieu triomphera parce que son plan est accompli selon son caractère. Son plan est accompli selon son caractère. Et vous savez, il existe toutes sortes d'idées, et je peux ajouter des idées erronées à propos de Dieu. Il y a ceux qui disent que Dieu n'existe pas. On les appelle les athées. Il y a ceux qui disent, mais Dieu a déjà existé, mais aujourd'hui, il est mort. On entend cela. Il y a ceux qui disent que Dieu a créé l'univers, qu'il a laissé à lui-même pour se débrouiller tant bien que mal, parce que Dieu n'intervient plus maintenant dans les affaires de l'homme. Mais ce matin, notre texte nous révèle tout à fait le contraire. Ce texte nous révèle un Dieu qui est vivant et qui est non seulement vivant, mais qui est actif et qui est non seulement actif, mais qui est en parfait contrôle de tous les événements de l'histoire. Avez-vous remarqué le nombre de fois que le pronom « je » est utilisé? 7 fois dans 4 versets où Dieu va dire ceci: j'ébranlerai, je renverserai, je détruirai, je renverserai, je prendrai, je garderai, je. Et cela nous démontre que Dieu sait exactement où il s'en va avec l'histoire de l'humanité et ce qu'il va faire. Et nous avons de beaux textes qui nous démontrent aussi, qui renforcent justement cette vérité. Ésaïe 14, 24 nous dit ceci: l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera et ce que j'ai résolu s'accomplira. Un autre beau texte dans Ésaïe 46, 9, il va dire ceci: je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai, pardon, tout ma volonté. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Alors ce matin, je répète, Dieu n'est pas mort. Il est vivant et parfaitement en contrôle de tous les événements de l'histoire. Soyons équilibrés. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il permet aux gens de faire des choix et il tient les gens responsables pour leurs choix. Mais au-dessus des choix des hommes et la volonté souveraine de Dieu, où est-ce qu'il contrôle les événements de l'histoire pour qu'ils accomplissent ses plans. Je vais vous donner juste un exemple de cela dans la vie de Joseph. Vous allez vous rappeler que Joseph, ce jeune homme, haï par ses frères, vendu comme esclave en Égypte, puis pensait qu'ils avaient débarrassé de Joseph. Ils avaient fait ces choix-là, les frères, mais Dieu est au-dessus de tout cela. Il y avait une volonté pour Joseph. Il y avait une volonté, un plan pour Jacob et la nation d'Israël. Et même si les frères ont fait ces choix pour le vendre en Égypte, Joseph a pu leur dire, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il voyait justement la souveraineté de Dieu, même au-dessus de la choix et des décisions des hommes. Alors Dieu triomphera parce qu'il est en parfait contrôle de la situation. Et deuxièmement, Dieu triomphera parce que Dieu est puissant pour accomplir ses plans. Pas seulement il est en contrôle, mais il est puissant aussi. Il a la puissance et la force pour accomplir son plan. Avez-vous remarqué non seulement le « je », Dieu est en train de dire « je suis en contrôle », mais les verbes que le texte utilise pour nous démontrer justement la puissance de Dieu pour accomplir ses plans. Dieu va dire ici, « J'ébranlerai, je renverserai, je détruirai, je prendrai, je garderai. » Et si vous regardez les choses qui vont subir les actions de ces verbes-là, vous allez comprendre la puissance que Dieu possède. « J'ébranlerai les cieux et la terre. » Arrêtez un petit moment et pensez à cela. La force, la puissance qui est nécessaire pour ébranler les cieux et la terre. Dieu dit, je le ferai. Je vais renverser le trône des royaumes, la force des royaumes. Dieu nous démontre qu'il est puissant, il est tout puissant, et c'est lui seul qui est capable d'ébranler les choses et d'accomplir sa volonté. Et cette déclaration que Dieu fait ne dépend pas de la réponse des hommes. Dieu ne dit pas, j'espère ébranler les cieux latins, mais ça va dépendre un peu comment les gens vont réagir. Non. Dieu dit, écoute, Daniel 4, 35 nous dit ceci, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui lui dise, que fais-tu? Cela ne dépend pas non plus des ressources des hommes. Zerubbabel aurait pu dire à Dieu, mais écoute Dieu, on est limité, comment est-ce que tu vas accomplir cela? On n'a pas de roi, on n'a pas d'armée, nos ennemis sont puissants, etc., etc. Laissez-moi vous poser une question. Dieu est-il limité par nos faiblesses, nos impuissances, nos incapacités? Dans Psaume 147, 5, le psalmiste dit ceci, « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. » Et Dieu est un Dieu qui se plaît à révéler sa puissance là où nous sommes faibles. Et je vous donnerai quelques exemples. Vous avez les enfants d'Israël qui sont en esclavage en Égypte. Et dans cette situation, Dieu va faire une chose extraordinaire. Il va les faire sortir de l'esclavage. Le texte dit, à main forte et à bras étendus. Et vous connaissez l'histoire, les plaies qui ont frappé l'Égypte. Comment même à la mer Rouge, on voit la puissance de Dieu pour séparer la mer en Dieu pour que les enfants d'Israël puissent passer, etc., etc. Alors Dieu est puissant pour accomplir sa volonté. Deuxième chose aussi, on voit que à travers les histoires de l'Ancien Testament, les murailles de Jéricho, un autre exemple de la puissance de Dieu, Josué chapitre 6, la défaite de Madian par Gédéon, une grande armée, et Dieu va prendre un homme et 300 hommes avec lui pour justement accomplir une grande victoire. Vous avez aussi la défaite de Goliath par David. Et qu'est-ce que David va dire à ce géant? La victoire appartient à l'Éternel. Ce n'est pas étonnant que le prophète Jérémie va dire ceci dans Jérémie 32, 17. « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, par ton bras étendu, rien, je répète, rien n'est étonnant de ta part. » Dieu est en contrôle, Dieu puissant pour accomplir ses plans et sa volonté. Et vous savez, Dieu aussi a un plan précis pour l'histoire. Comme le texte nous dit, il montre exactement dans un temps futur ce qu'il va faire. Mais savez-vous aussi que si vous êtes ici ce matin et vous êtes sauvé, que Dieu ne vous a pas laissé tâtonner, mais il y a un plan aussi précis, un plan défini, un plan unique pour vous, pour votre vie, parce que vous, vous êtes unique. Éphésiens 2:10 nous dit ceci, que 2:8 nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, bien sûr, mais ça n'arrête pas là. Dieu nous a sauvés et chacun de vous, vous avez, moi inclus, nous avons dans le plan de Dieu, le plan éternel de Dieu, nous avons une place précise et le texte nous dit que Dieu a préparé d'avance. Ce n'est pas l'hasard. Dieu sait ce qui s'en va avec l'univers. Il nous dit ce qu'il va faire. Et dans l'Église et dans l'œuvre de Dieu, Dieu a préparé d'avance des œuvres de justice pour chacun de vous, moi inclus, afin que nous les pratiquions. Préparé d'avance. Alors la question qu'il faut nous poser ce matin, est-ce que vous savez quel est le plan de Dieu pour votre vie? Et si vous le savez, le plan de Dieu pour votre vie est-il prioritaire? Est-ce que c'est possible que ce plan est devenu secondaire? Ou même qu'il occupe un rang encore plus bas? Et je ne cherche pas à vous culpabiliser ce matin, je dois examiner aussi mon propre cœur, mais ce matin, soyons honnêtes, soyons transparents devant Dieu et en réfléchissant sur ce texte, en réfléchissant aussi sur cette implication plutôt de ce que nous avons devant nous, j'ai pensé à la prière du psalmiste. Dans Psaume 139, 24, et c'est une prière que nous pouvons tous faire la nôtre. Il va dire ceci à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde et vois si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité, une voie qui est en conformité avec ton plan éternel pour ma vie. Ça, c'était la prière du service. Et que par la grâce de Dieu, que ce soit aussi la prière de chacun de nous ce matin. Alors, Dieu triomphera. Il règne encore, il est en contrôle, il est puissant pour accomplir son plan éternel. Deuxièmement, Dieu triomphera parce que son plan est accompli selon son choix. Dieu a un plan pour l'histoire, mais il y a aussi un plan pour les individus. Et il va dire à Zorobabel dans le verset 23, « Je te prendrai, je te garderai parce que je t'ai choisi. » Il est en train de dire à Zorobabel, malgré l'opposition, malgré les circonstances, tu dois vaquer à tes occupations pour bien jouer ton rôle de gouverneur parce que c'est moi qui t'ai choisi pour ce rôle. Ça, c'était le plan de Dieu pour la vie de Zorobabel. Et ça aurait dû être un encouragement pour Zorobabel de savoir, choisi par Dieu, élu par Dieu, et de savoir que Dieu promettait de le soutenir, de le garder dans le rôle que Dieu lui avait assigné. « Je te garderai », lui dit-il. Et ce matin, je n'ai pas l'intention de débattre la doctrine de l'élection, une doctrine qui a fait couler beaucoup d'encre doctrine qui, malheureusement, pour quelques-uns, est devenue un sujet de discorde, de dispute, de controverse. J'aimerais simplement sortir quelques grandes vérités à propos de l'élection, et cela pour notre édification. Dans un premier temps, à travers la parole de Dieu de Genèse à l'Apocalypse, il y a une vérité fondamentale qui revient. Dieu est un Dieu qui choisit. Nous avons un texte dans Romains 9, 11, pas besoin d'y tourner, mais Dieu, il y a deux frères, ce sont des jumeaux, et Dieu va choisir un et pas l'autre. C'est Jacob. Quand il s'agit de la nation d'Israël, Dieu va leur dire en Deutéronome 7, 6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. » Dieu a choisi Israël. La tribu de Lévi. Au lieu de notre tribu, il y avait 12 tribus. Mais Dieu va en choisir une, la tribu de Lévi, parmi tous les 12 fils de Jacob. Deutéronome 18:1, les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. L'Éternel sera leur héritage. Pourquoi? Car c'est lui que l'Éternel a choisi entre toutes les tribus pour qu'ils fassent le service au nom de l'Éternel. Dieu a choisi David. 1 Samuel 16:1, Dieu va dire à Samuel, le prophète, « Remplis ta corne d'huile, va chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » J'ai choisi ce jeune homme pour être roi. Dans notre texte ce matin, Zorobabel, Dieu va lui dire, « Zorobabel, je t'ai choisi. » Dans Luc chapitre 6, en parlant des apôtres, 12 en nombre, quand le jour parut, en parut Seigneur Jésus-Christ, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom des apôtres. Et dans Jean 15, 16, Jésus va rappeler aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et même Saul de Tarse, on a parlé de cet homme ce matin, qui a écrit le texte qui était devant nous ce matin à la table du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu va dire à propos de Saul de Tarse, un homme qui ravageait l'Église, qui est un persécuteur? Il va dire à Ananias, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Et ce matin, si vous connaissez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, sachez que vous avez été aussi choisi. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus, choisis, avant la fondation du monde. Deuxième vérité qui découle justement de ce texte, que Dieu garde ce qu'il a choisi. Et vous donne quelques exemples ici, la nation d'Israël. Deutéronome 32, 9 nous dit ceci, « La portion de l'Éternel, c'est son peuple. » Et Dieu va dire, « Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. » Et le fait qu'Israël existe encore aujourd'hui, après l'exil en Babylone et en Assyrie, après la destruction de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ et leur dispersion aux quatre coins du monde, après l'Holocauste où est-ce que Hitler et les nazis ont essayé d'éliminer ce peuple, et le fait qu'ils vont aussi survivre pendant la grande tribulation, où est-ce que l'Antichrist va déclencher une persécution intense contre ce peuple, est une preuve indéniable que Dieu garde ses élus. Zorobabel, encore notre texte, Dieu va me faire une belle promesse, je te garderai. Les apôtres, avant d'aller à la croix, avez-vous remarqué comment est-ce que Jésus va prier pour ses apôtres? Il va dire ceci, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Dieu garde ce qu'il a choisi, le seul qu'il a perdu. C'était Judas, le fils de perdition. Il a gardé les autres. Et les croyants, quel beau texte en Jean, chapitre 10, 29. Jésus, en parlant de ses brebis, va dire ceci, « Mon pain qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon pain. » Bien-aimés, ce matin, sauvés par Dieu, choisis par Dieu et gardés par Dieu. Et troisièmement, Dieu choisit, Dieu garde, et ceux qui ont été choisis et gardés triompheront finalement avec Dieu et dans son plan éternel pour ses élus. Pourquoi? Parce que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ça, c'est dans Romains 11, 29. Et j'ai parlé aussi du cas d'Israël. Actuellement, cette nation choisie par Dieu est dans l'endurcissement. Romains 11, 25. Mais un jour, Israël sera au centre de la volonté de Dieu. Et que dit Romains 11, 23? Dur et puissant pour les greffer de nouveau. Cette nation va redevenir le centre justement du plan éternel de Dieu. Quand le Seigneur va établir son royaume millénaire, il va régner de Jérusalem et Israël va redevenir ce que Dieu a toujours voulu qu'elle soit. Parce que ce que Dieu choisit et que ce que Dieu garde vont triompher finalement dans le plan éternel de Dieu. Matthieu 16, 18 nous parle de l'Église. Et malgré l'état qui parfois aujourd'hui semble pitoyable à cause des ravages de l'ennemi du péché, mais les saints vont triompher et persévérer parce que le Seigneur Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et même les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Ça, c'est une promesse que ceux que Dieu choisit et garde triompheront finalement dans le plan éternel de Dieu. Et même pendant la grande tribulation, où est-ce qu'il va y avoir aussi des croyants? Et l'Antichrist va justement, comme je dis, déclencher une persécution terrible contre ces personnes. Même la Bible les démontre comme des vainqueurs, ceux qui ont triomphé parce qu'ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. Dieu choisit, Dieu garde, et ceux qui sont gardés triompheront finalement dans le plan éternel de Dieu. J'aimerais juste sortir deux implications qui découlent de ce point du fait que Dieu choisit. Tout d'abord, accepter que Dieu choisit glorifie Dieu parce que cela lui donne la place, ce qui lui revient. Le souverain roi de l'univers qui, selon son plan éternel, Éphésiens 1, 11 nous dit ceci, « Au Père, toute chose d'après quoi? Notre conseil? Non. D'après le conseil de sa volonté. » Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre à personne parce qu'il est souverain et c'est à nous de nous incliner devant cela et de l'adorer. Et le fait que Dieu choisit, pas à cause de ce qu'il voit dans l'individu, humainement parlant, là, je vous pose une question. Qui aurait, parmi nous, là, aurait choisi Jacob? Quelqu'un a dit que Jacob, là, il était tellement tordu et croche, là, il pouvait se cacher derrière un tire-bouchon. Et pourtant, Dieu choisit cet homme. Et vous avez aussi le cas des Lévites. Deux frères, Simeon et Lévite, qui étaient coupables justement des actes de violence. Ils ont pris leurs épées, là, puis ils ont allé, vous connaissez l'histoire de leur sœur Dina. Et justement, avec les gens, toute l'histoire. Et ces hommes-là, par ruse, sont tombés sur une ville. Ils ont zigouillé tous les hommes qui étaient là. Ils ont tué. Et pourtant, Dieu choisit les descendants de cet homme qui était un meurtrier pour justement faire de ce peuple-là, cette tribu-là, une tribu d'adorateurs et de permettre à ces personnes-là de s'approcher de Dieu et le souverain sacrificateur qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint. Et même encore, Saul de Tarse, un homme violent, blasphémateur, persécutait l'Église, et Dieu choisit cet homme pour faire de lui un grand apôtre. Et qu'est-ce que ça nous démontre? Ça a été mentionné ce matin. C'est une démonstration magnifique de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Quand Dieu choisit, qu'importe la personne, et il déverse sa grâce. On ne mérite absolument rien. Personne. Alors le fait que Dieu choisit quelques-uns, c'est un miracle. Et ça fait briller justement sa grâce, cette faveur imméritée que Dieu donne à qui il veut. Alors, laissons Dieu être le souverain. Laisse Dieu être le souverain. Et dans cette vérité que Dieu choisit, comme je vous ai fait voir à travers justement la parole de Dieu, sa souveraineté brille et sa grâce et sa miséricorde brillent. Parce qu'il choisit des gens que nous, on n'aurait jamais, jamais choisi. Deuxième aussi application, c'est un encouragement pour nous ce matin. Nous qui sommes sauvés, de savoir que Dieu nous a choisis, que Dieu nous garde, et qu'en Jésus-Christ, et par Jésus-Christ, nous pouvons triompher. Nous pouvons être plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Et comme on chante, nous pouvons briller là où est-ce que Dieu nous a placés. Et troisièmement, finalement, le plan éternel de Dieu, Dieu va triompher dans ce plan éternel parce que Christ est au centre de ce plan. Jésus-Christ est le centre et le but final de tout ce que Dieu était en train de faire dans l'histoire. Tout l'Ancien Testament pointe en avant vers le Christ. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham et à David ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ. Et tout le Nouveau Testament est centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et dans notre texte, il faut comprendre que Zorobabel, même si le texte est adressé à Zorobabel, il faut comprendre que le texte a une portée encore plus loin. Parce que toutes ces promesses-là n'ont pas été accomplies au temps de Zorobabel. Et Zorobabel est juste un type de Jésus-Christ par qui Dieu va triompher dans son plan éternel. Et la ressemblance est là. Dieu appelle Zorobabel mon serviteur. Il a dit, je vais te garder. Et s'il y a un beau texte dans Ésaïe 42, où est-ce qu'on parle de Jésus-Christ? De la même manière, le texte va dire ceci, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » Dieu parle de son fils Jésus-Christ, il appelle son serviteur, puis il dit aussi, « Je vais te souvenir, je vais te soutenir, je vais te garder. » Alors ici, nous avons un portrait justement de Jésus-Christ à travers Zorobabel. Et le plan de Dieu, éternel de Dieu, Dieu a triomphé dans ce plan à travers Jésus-Christ dans le rôle de, tout d'abord dans le rôle de serviteur. Et juste vous savez, c'était quoi le plan? Sauver les âmes perdues. Les âmes séparées de Dieu à cause du péché, les âmes exposées au jugement, à la colère de Dieu. Et nous savons que Christ a triomphé dans ce plan par sa mort et sa résurrection. Je vous ai donné des textes ici en bas, je n'ai pas les écrits, mais vous connaissez ces textes. Christ est mort pour nos péchés, 1 Corinthiens 15, 3. Ésaïe 53, il était blessé pour nos péchés. Et vous voyez comment l'œuvre de Dieu, entre les mains de Dieu, où est-ce que Christ vient maintenant pour accomplir le plan éternel, réconcilier des pécheurs avec un Dieu saint, Christ a accompli cela. Romains 5, 11 nous dit ceci, que nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et par la résurrection de Jésus-Christ, Dieu va mettre son sceau d'approbation sur l'œuvre de Christ. Et on a fait mentionner cela aussi, mention de cela ce matin, Philippiens 2, 9, 11. Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et au nom de Jésus que tous genoux fléchissent. On nous montre, comme en étant de serviteur, comment est-ce que le plan de Dieu a réussi entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et je me suis posé une question, comment se fait-il que cette victoire-là, Dieu va triompher dans son plan éternel? Le plan est centré sur Christ. Et Christ avait deux rôles. Il est venu comme serviteur, et dans ce rôle de serviteur, le plan de Dieu a été exécuté parfaitement, et Christ a triomphé dans ce plan. Mais comment? J'aimerais vous suggérer, c'était à cause du cœur du serviteur. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, dans Jean 6, 38, il a dit ceci: « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ça, c'était au cœur du Seigneur Jésus-Christ, en tant que serviteur. Et c'est pourquoi il a triomphé. Malgré la difficulté, malgré tout ce que la croix et la souffrance, il y avait ce cœur de serviteur, c'était la volonté de Dieu qui était priorité dans sa vie. Et il a triomphé. Quel serviteur obéissant. Et Dieu aussi, Seigneur Jésus-Christ, Dieu va triompher dans son plan éternel, centré en Christ. Non seulement parce que Christ est le serviteur, mais il était aussi le sceau. Le texte va nous dire en parlant, il a dit, « Je te prendrai et je te garderai comme un sceau. » Et dans l'Ancien Testament, et même encore aujourd'hui, là, le sceau est un symbole d'honneur et d'autorité. Et qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? Ceci, c'est que le plan de Dieu pour toute l'éternité, toute l'histoire et jusqu'à dans l'éternité, ne peut jamais être contrecarré, déraillé, saboté. Pourquoi? Parce que Christ, en tant que sceau de Dieu, a été investi de toute autorité. Voilà pourquoi le plan de Dieu éternel va réussir. Parce que Seigneur Jésus-Christ a dit ceci: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce matin, dans le ciel, Christ est assis à la droite du trône de Dieu, revêtu de gloire et d'honneur, revêtu de majesté, saint de puissance et d'autorité. Il n'est plus cet homme de douleur, est habitué à la souffrance, sur lequel on a craché, on a rejeté, on a couronné d'épines, on a cloué sur une croix, on s'est moqué de lui. Ça, c'est fini. Mais Dieu, le sceau de Dieu ce matin, est assis à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur, investi d'une puissance, tout pouvoir extraordinaire. Il est le puissant lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et autant que Dieu va choisir, il va se lever de son trône, il va écraser les ennemis de Dieu, il va instaurer son royaume, d'abord le millénium et le royaume éternel, il va régner des siècles, il va accomplir complètement, totalement le plan éternel de Dieu. Le plan de Dieu est centré en Jésus-Christ. Dieu va triompher. Je vous laisse avec deux pensées ce matin en conclusion. Il y a un petit bout de phrase dans le texte qui dit « en ce jour-là ». Vous savez, pour Zorobabel, Dieu était en train de dire à cet homme le timing. Mon timing, ce n'est pas ton timing. Okay? Il fallait que Zorobabel fasse quoi? Lui faire confiance. Parce que les choses que nous avons vues ce matin, où Dieu a fait des promesses de renverser des royaumes, d'ébranler, ne sont pas accomplies pendant le temps de Zorobabel. Cet homme, il fallait qu'il vive en faisant confiance à Dieu pour l'avenir et de se vaquer à ce que Dieu lui avait demandé de faire pour le présent. Sinon, il serait mort un homme bien déçu. Et qu'est-ce que le texte nous enseigne ce matin? Que les circonstances mondiales épeurantes, comme je vous ai montré au début, les ennemis de l'Évangile, ni le découragement personnel, aucune de ces choses est une raison valable ou valide pour négliger ce que Dieu nous a appelé à faire là où il nous a placés. Et quel privilège ce matin pour vous et pour moi de participer dans le plan éternel de Dieu qui le glorifiera pendant tous les siècles. Et comment est-ce qu'on va faire cela? Mais je résume rapidement le quatre messages d'Agé. Premièrement, fais une priorité de la royaume de Dieu. du royaume de Dieu plutôt. C'est une priorité. Ça, c'est message numéro un. Priorité aux priorités. Message numéro deux, ne laisse pas les échecs du passé nous décourager, nous paralyser. Message numéro trois, faites l'œuvre de Dieu avec un cœur qui est pur. On a vu cela. Et le quatrième message, faites confiance à Dieu pour l'avenir. Parce que notre Dieu n'a pas démissionné, il règne encore. Et si ce matin vous n'êtes pas sauvé, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, le timing pour Zorobabel était pour l'avenir, mais le timing de Dieu pour le salut est aujourd'hui. Le texte nous dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et la Bible nous met en garde, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous ne savons pas personne ici ce matin, si nous serons ici demain. Et si vous êtes toujours sans Christ dans vos péchés, votre plus grand besoin, ce n'est pas de gagner le 649, ce n'est pas cela. Votre plus grand besoin, c'est d'être réconcilié avec un Dieu qui est saint et juste et qui, un jour, va juger le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que le péché a été déjà jugé en Jésus-Christ. L'amour de Dieu. Hein? Dieu pousse son amour envers nous lorsque, nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle nouvelle extraordinaire! Et si ce matin, par un acte sincère de repentance, vous regrettez justement vos péchés, vous tournez vos regards vers le Christ et vous vous repentez, vous croyez que Christ est vraiment mort à votre place, Dieu vous pardonnera et fera de vous son enfant. Alors ce matin, j'aimerais vous exhorter, si vous ne le faites pas encore, mettez pas votre confiance dans la religion ni dans vos bonnes œuvres, mais en Jésus-Christ. Et une dernière parole, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et l'invitation, c'est de le faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Et pour nous qui sommes sauvés, mettons et continuons à se faire confiance en le Seigneur pour l'avenir, en le servant finalement, parce qu'il règne. Il règne encore. Il règne encore. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Tu es un Dieu qui est grand, qui nous dépasse. Merci pour cet encouragement que tu as donné à Zorobabel, ton serviteur fidèle que tu avais choisi pour qu'il occupe une place précise dans ton plan éternel. Et tu as promis aussi de l'assister, de le garder et de l'encourager. Et merci Seigneur que tu nous as aussi placés dans ton royaume, dans ton Fils. Et chacun de nous aussi, nous avons un rôle précis à jouer. Merci pour ta présence avec nous. Merci aussi pour ta puissance qui nous permet d'accomplir ces œuvres que tu as préparées pour nous. Alors, donne-nous, Seigneur, alors d'être de ceux qui sont attachés à ta personne, à notre appel, et qu'un jour, devant ton trône éternel, Seigneur, nous puissions t'entendre dire c'est bien, bon et fidèle serviteur. Préserve-nous alors des attaques du malin. Préserve-nous du découragement. Que nos yeux soient fixés sur le Christ. Merci qu'il a triomphé et que nous pouvons triompher aussi en lui et par lui. Et pour ceux qui ne sont pas sauvés, qui ne te connaissent pas, Seigneur, tu es un Dieu qui est miséricordieux et gracieux. On prie pour ces âmes que tu puisses aussi leur révéler ta personne afin qu'ils puissent te connaître et d'être prêts pour l'éternité. Sépare-nous avec ta bénédiction et sois béni, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.